Voici le journal de François Chagnaud. Bonjour François.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quand des puissances étrangères ciblent les outre-mer français, c'est le titre de la dernière enquête de la cellule investigation de Radio France. Révélation à suivre dès le début de ce journal.
Un mois des élections européennes, on vous dévoile quel regard les Français portent sur l'Union et les élections européennes, et c'est souvent à travers le prisme du manque d'intérêt.
Les Allemands dans les rues pour protester contre la violence en politique après l'agression d'un eurodéputé et d'un militant écologiste. Et puis le sud du Brésil transformé en zone de guerre après des inondations sans précédent. Les secours travaillent d'arrache-pied dans des conditions extrêmes. Et juste après ce journal, la question du jour, Marguerite Caton.
Comment lutter contre la prostitution des mineurs ?
Les ingérences étrangères qui visent la France ne se limitent pas à l'Hexagone. Voici l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France qu'on vous présente ce matin. Alors la Chine, la Russie, mais aussi l'Azerbaïdjan et les Comores ciblent-elles aussi la France ultramarine ? Première illustration avec vous, Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors que le président Xi Jinping est arrivé hier à Paris, vous nous racontez que la Chine s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie.
Oui, et particulièrement à son nickel. Ces dernières années, des collectivités locales ont reçu des offres chinoises pour des projets touristiques ou économiques, dont un axé sur l'exploitation du nickel. Elles n'ont pas donné suite, mais c'est typique de la stratégie chinoise qui préoccupe ce haut fonctionnaire français qui connaît bien le dossier. Nous avons fait lire son témoignage.
C'est son influence économique qui m'inquiète le plus. Dans la zone, la Chine s'est déjà payée les îles Vanuatu et les Salomon et elle attend que la Nouvelle-Calédonie lui tombe rôtie dans le bec d'ici 40 à 50 ans.
Mais d'autres pays sont à l'œuvre. Depuis le début de l'année, plusieurs manifestations ont aussi rassemblé des milliers d'indépendantistes opposés à la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et dans les cortèges, étrangement, on a vu des drapeaux azéris. Bastien Van Dendyk est analyste en relations internationales. Depuis Nouméa, il pointe une stratégie de déstabilisation par l'Azerbaïdjan.
C'est tout à fait une opération de représailles envers la France parce que la France tient des positions qui ne lui plaisent pas sur les relations que l'Azerbaïdjan peut avoir avec l'Arménie, mais également sur les actions que l'Azerbaïdjan peut avoir au Haut-Karabakh. En fait, il soutient le mouvement indépendantiste parce que ça permet de renforcer les dissensions sociopolitiques qui peuvent exister aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Et pour cela, l'Azerbaïdjan a même créé l'été dernier le groupe d'initiative de Bakou, une structure qui soutient les indépendantistes dans les Outre-mer. Français. Une élue indépendantiste de Nouvelle-Calédonie s'est même rendue au Parlement azéri pour signer un mémorandum. En conséquence, plusieurs élus loyalistes ont saisi le procureur de Nouméa. Selon leur courrier que nous avons pu consulter, ils estiment que sa démarche relève de la trahison.
Et Frédéric, la Russie est aussi à la manœuvre en Nouvelle-Calédonie.
Oui, dans les manifestations indépendantistes, on a aussi vu des banderoles appelant Vladimir Poutine à l'aide. Pour Bastien Van Dendyk, la stratégie russe est bien rodée.
La Russie pourrait faire dans le Pacifique ce qu'elle a fait en Afrique, c'est-à-dire jouer sur les ressentiments anti-français pour déstabiliser la présidence française. Sur les réseaux sociaux, on observe aussi la création de vidéos créées et partagées par des comptes qui ne sont pas hébergés en Nouvelle-Calédonie et qui ont parfois des origines russes.
La Russie a donc ouvert un nouveau front de sa guerre hybride en Nouvelle-Calédonie.
Merci Frédéric Mettezo de la cellule investigation de Radio France. Quand des puissances étrangères ciblent les outre-mer français, c'est votre enquête à retrouver sur radiofrance.fr. Dans le journal de 8h, nous évoquerons avec vous les ingérences étrangères à Mayotte cette fois.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de François Chagnaud, désintérêt et méconnaissance.
Et voilà comment on pourrait qualifier le rapport des Français aux élections du mois de juin et à l'Union européenne de manière générale. C'est en tout cas les grandes lignes de l'enquête Via Voice pour Radio France, France Télévisions et France Média Monde qu'on vous révèle ce matin. Alors en revanche, les Français connaissent bien l'un des candidats, Stéphane Robert. Il s'agit du chef de file du Rassemblement National.
La notoriété de Jordan Bardella apparaît de façon éclatante dans cette enquête. Il est clairement identifié par 73% des personnes interrogées, tandis que 33% du panel seulement voient à peu près qui est Valérie Ayé, la candidate du camp présidentiel. Et quand on leur demande de désigner un député européen qu'elles connaissent, c'est le nom de Jordan Bardella qui vient en première réponse dans 36% des cas, loin devant tous les autres. Il est par conséquent le candidat le plus connu de ce scrutin. Cette enquête révèle également que la moitié des personnes interrogées déclarent s'intéresser aux élections européennes, tandis que l'autre moitié affirme n'y voir aucun intérêt. Il faut par conséquent s'attendre une nouvelle fois à une forte abstention a priori au minimum de 50%. Si beaucoup ne s'y intéressent pas, c'est aussi peut-être parce qu'elles s'estiment mal informées. 2 personnes sur 3 déclarent manquer d'informations sur les programmes et sur le nombre de listes candidates. Et on constate effectivement qu'il y a un défaut de connaissances important sur l'Europe et les institutions, notamment quand on voit que près de 50% des personnes interrogées, 46% exactement, pensent que les élections européennes servent à élire les membres de la Commission européenne. Et quand on leur demande ce qu'elles attendent de l'Europe, parmi les mesures les plus plébiscitées, par au moins 6 personnes sur 10, on trouve la création d'une taxe aux frontières de l'Union sur les produits importés, ou encore la création d'une armée européenne. Des mesures qui expriment manifestement des craintes et un besoin de protection.
Ah, cette enquête a été réalisée sur un panel de 2000 personnes en âge de voter. Une étude à retrouver en détail sur le site de Radio France. Le Rassemblement National, comme tous les autres partis politiques, peuvent déposer à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 mai leur liste de candidats à ce scrutin auprès du ministère de l'Intérieur. Alors chacune doit contenir 81 candidats de nationalité française ou d'un des États membres de l'Union. Et d'ores et déjà, Antoine Marette, un grand nombre de listes est annoncé.
En 2019, lors des dernières européennes, les Français avaient le choix entre 34 listes. Seules 6 d'entre elles avaient obtenu un score supérieur à 5%, permettant de faire élire des eurodéputés. Alors pourquoi un si grand nombre de candidats pour un si petit nombre d'élus ? D'abord pour des raisons pratiques, selon Bruno Cotres, politologue et chercheur au CEVIPOF.
Pour de petites formations politiques qui disposent de très peu de moyens pour faire campagne, eh bien ça permet à ces petites formations politiques, parce qu'il y a un principe de circonscription unique, de gagner en visibilité, d'être présente dans l'espace médiatique, d'avoir du temps de parole au moment de la campagne officielle, et donc une manière pour ces petites formations politiques de gagner beaucoup en visibilité, en tout cas le temps de la campagne.
Contrairement à la présidentielle, il n'y a pas de parrainage nécessaire pour se présenter. Les frais de campagne sont remboursés pour les listes qui obtiennent au moins 3%, mais ce ne sont pas les seules raisons qui expliquent ce grand nombre de listes.
Le thème européen est un thème à la fois relativement large qui permet à différents courants de l'opinion de se porter candidat aux élections européennes. On le voit très bien par exemple en matière d'écologie. C'est un thème qui est à la fois très porté par la question européenne. Eh bien, on retrouve très souvent autour de la problématique de l'écologie aux élections européennes une multiplicité de petites listes qui viennent occuper ce qu'on appelle, nous, des niches électorales, c'est-à-dire des petits segments.
Pour le scrutin de juin prochain, il pourrait y avoir ainsi jusqu'à 9 listes se réclamant de l'écologie politique.
Et c'est en placardant des affiches pour ces élections européennes qu'un eurodéputé et un militant écologiste ont été passés à tabac à Dresde en Allemagne vendredi dernier. Cette agression provoque une onde de choc dans le pays. 2 manifestations contre les violences en politique ont eu lieu hier soir à Dresde et à Berlin, porte de Brandebourg, où vous avez croisé des manifestants inquiets du climat électrique de cette campagne électorale, Sébastien Baer.
De la foule émergent quelques drapeaux. Les verts du parti écologiste, dont un militant a été frappé à coups de pied et de poing, et les rouges du SPD, le parti social-démocrate du député européen agressé à Dresde.
Moi, je suis SPD. J'étais effrayée. L'attaque, c'est affreux. Ça m'a choquée. Ça peut tomber sur n'importe qui. Hein.
Partout, élus et militants sont de plus en plus souvent pris à partie. 112 délits liés à des motivations politiques recensés dans la région de Saxe depuis le début de l'année. Lars Klingbeil, le chef du parti social-démocrate, accuse l'extrême droite de durcir la campagne électorale.
L'ambiance est plus polarisée. Les attaques ont augmenté. Le langage devient plus brutal. Il y a des appels à la violence. Nous en faisons l'expérience dans la rue et sur Internet. L'AFD crée un climat social pour que les démocrates du SPD, des Verts, de la CDU et du FDP soient attaqués.
Le Parti social-démocrate a pris des mesures pour la sécurité de ses élus et militants. Tractage et affichage n'auront plus lieu qu'en journée et les équipes seront renforcées. Même précaution chez les Verts, assure la coprésidente Ricarda Lang, protégée par 3 gardes du corps.
Nous avons fait des recommandations concrètes. Ne plus se déplacer seul pendant la campagne électorale. Il faut veiller à ce qu'il y ait des formations sur la manière de gérer les situations difficiles. Et bien sûr, que la police soit présente sur le terrain et bien préparée.
Après les européennes, 3 élections régionales sont prévues en septembre en Saxe, Thuringe et dans le Brandebourg. Des scrutins jugés à risque dans 3 Länder de l'ex-Allemagne de l'Est où l'extrême droite fait la course en tête.
Alors on l'a évoqué, les Français s'intéressent peu à ces élections européennes et de manière générale, chaque scrutin en France bat des records d'abstention. Alors paradoxalement, la vie politique et surtout parlementaire passionne de plus en plus et ça fait les affaires de LCP. L'Assemblée nationale auditionne aujourd'hui les 5 candidats à la direction de la chaîne parlementaire. parlementaire. LCP a su dépoussiérer son image et gagner des parts d'audience, Adrien Taufollet.
Une stratégie de conquête de nouveaux publics payante d'abord. Renforcement de l'offre éditoriale d'une part avec des programmes originaux, Rembobina et Politiques à table par exemple, et beaucoup de documentaires en soirée. Développement du numérique d'autre part avec une chaîne YouTube à plus de 250 000 abonnés et une présence accrue sur les réseaux sociaux où les extraits des questions au gouvernement ont un très fort potentiel de viralité. Comme certains travaux de commission, les auditions de Jean-Marc Jancovici et de Cyril Hanouna par exemple comptabilisent plusieurs millions de vues. Une stratégie qui récolte également les bénéfices d'une actualité riche et de plus en plus clivante, affaire Benalla, gilets jaunes, Covid et restrictions sanitaires, et puis toutes les réformes, travail, retraite, PMA ou encore immigration. Petite phrase et clash à la clé.
Vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays.
Isolé et partagé par centaines sur les réseaux sociaux. Et le clash, c'est du clic. Mais pour Bertrand Delay, le président de la chaîne, la viralité des contenus d'LCP est avant tout liée aux politiques qui mettent en scène leur travail et leur joute.
Vous avez principalement la France insoumise et dans une moindre mesure chez une partie de la Macronie, des gens qui sont plus habiles à utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, il n'est pas rare de voir un parlementaire dans sa communauté avec 150 ou 200 000 followers sur Twitter dire « je vais poser une question à telle heure ». Et donc, à ce moment-là, il génère une audience ponctuelle. Donc c'est pour ça que ça n'est pas tant la bordélisation que la capacité dans la polarisation dans laquelle on est de chaque communauté de reprendre un morceau d'LCP.
Tout cela construit la force de la marque LCP, indispensable pour espérer garder sa place sur le canal 13 de la TNT, très convoité devant toutes les chaînes d'infos en continu.
Adrien Taufollet. Des pluies diluviennes et des inondations continuent de martyriser l'état du Rio Grande do Sul dans le sud du Brésil. On déplore déjà 78 morts et 105 disparus. Les sauveteurs sont donc engagés dans une course contre la montre très difficile car la zone à couvrir est immense et complique fortement les opérations de sauvetage. Jean-Mathieu Albertini.
Depuis un hélicoptère, Lula survole Porto Alegre et constate l'ampleur des dégâts en compagnie du gouverneur local. Alors que le niveau du fleuve Guaiba a grimpé de 5,30 m, la crue la plus violente de son histoire, une bonne partie de la ville est sous les eaux. Mais la capitale est loin d'être la seule affectée et c'est bien l'ampleur de la catastrophe qui angoisse le gouverneur Eduardo Leite.
C'est un scénario de guerre dans l'État.
C'est un scénario de guerre dans l'État. Durant d'autres épisodes de catastrophes climatiques, tout se limite généralement à une localité. Mais cette fois, c'est une caractéristique différente. C'est son extension et cela touche des zones très peuplées. Il y a donc un risque imminent d'effondrement de divers services dans le Rio Grande do Sul.
334 municipalités sont touchées sur les 497 que compte l'État. 800 000 domiciles n'ont plus accès à l'eau et plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais face à l'étendue du désastre, l'entraide est essentielle. Canoë, jet ski, chaîne humaine, tout est bon pour exfiltrer des personnes bloquées par les pluies et la mobilisation. Continue alors que de fortes précipitations sont encore attendues ces prochaines 24 heures.
Les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza à nouveau au point mort. Une réunion d'urgence entre médiateurs internationaux doit avoir lieu aujourd'hui au Qatar. Hier, 3 soldats israéliens ont été tués par des roquettes du Hamas autour du principal point de passage de l'aide humanitaire depuis Israël vers Gaza. Ce checkpoint de Kerem Shalom a depuis été fermé. Et cette nuit, des frappes de l'armée israélienne ont tué 16 personnes dans un camp de réfugiés de Rafah, l'armée israélienne qui encourage les habitants de cette ville refuge du sud de l'enclave à se rendre dans les zones humanitaires. La météo, ciel gris ce matin, sauf sur la côte atlantique, il pleut des Ardennes jusqu'à la Drôme. Il fait entre 10 et 14 degrés sur une large partie du pays. Les maximales 17 à Marseille et 20 à Ajaccio.
7h14 sur France Culture. Dans quelques instants, la question du jour de Marguerite Caton. Comment lutter contre la prostitution des mineurs ?